Bonjour. Voici un témoignage que j'ai beaucoup hésité à enregistrer et en même temps je trouve ça tellement important que les témoignages passent et en même temps on est tellement conscient et consciente que la terrorisation de la population pour l'empêcher de se rebeller est à son paroxysme. Bien sûr ça peut aller encore plus loin hein, mais voilà, c'est un cran à chaque fois en plus et je trouve ce témoignage plutôt chouette aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il est plutôt lucide aussi là-dessus et qu'il apporte aussi des notes chouettes et dans les prochaines lectures qui vont arriver, j'essaierai de mettre beaucoup plus l'accent justement sur ces choses chouettes qui existent dans la lutte et que, ben ouais, on va s'en manger plein la gueule, mais on peut le faire de manière solidaire, joyeuse, et même qu'on peut gagner. Et même qu'à la fin, il paraît que c'est nous qu'on va gagner. Donc voilà. Je vous livre ce témoignage trouvé sur Facebook. Je ne vais pas vous dire le nom de la personne, tout simplement parce qu'elle a décidé après coup de le rendre public et qu'elle pourrait décider finalement après coup de le remettre en mode privé. Et du coup, je pense que voilà, ne pas dire son nom est plutôt chouette pour elle. Et je pourrais donner, si vous me contactez, évidemment, un contact, mais je ne suis pas sûre que ça soit le plus important. Donc ça concerne le soir de l'élection. Et ça a été écrit le lendemain. Témoignage de la rafle de Ménilmontant hier soir. Appel aux consciences et aux bonnes volontés qui se croient encore en démocratie. Ceux qui me connaissent et me suivent un peu savent que je n'en suis pas à mon premier gazage ni à ma première charge de CRS. Depuis Nuit Debout, on peut dire que j'en ai essuyé quelques-unes, quelques centaines même. Mais ce que j'ai vu ce soir dépasse tout ce que j'avais pu voir ou même imaginer possible. Je ne suis même pas sûre de parvenir à le raconter avec des mots, mais je vais essayer. J'en profite pour remercier Rémi, que je ne connaissais pas, et qui vit à quelques mètres de Saint-Sauveur, de m'avoir sorti de là, ce sans quoi je serais peut-être pas chez moi pour vous écrire ce texte. Je n'ai même pas eu le courage de filmer tant la scène était violente, surnaturelle. Lâche et chanceuse, donc. Pardon par avance pour les longueurs, mais quelques phrases n'y suffiraient pas. Je vais donc essayer de raconter ici ce qui restera pour moi les funérailles de mes illusions. Pas pour crâner sur Facebook, puisque je me fais plutôt lyncher en général, mais parce que ça nous concerne tous. Il est bientôt 4h du matin. Je viens de rentrer chez moi. Non, je n'ai pas passé ma soirée à fêter la victoire de Macron. Évidemment que non, comme ceux qui connaissent ma position sur le sujet sans doute. Je n'ai pas non plus été noyé ma rage dans un bar de mon quartier, mais j'étais en route pour le faire quand je rejoignais un ami, ce soir, à quelques centaines de mètres de chez moi, au métro Ménilmontant vers 20h30. Ça faisait déjà quelques heures que j'entendais les sirènes défiler en bas de chez moi. Plus que lors des attaques du Bataclan, me suis-je dit. Puisque j'étais déjà sur le trajet. J'observais le défilé par la fenêtre et les véhicules lourds par dizaines. Et si je n'avais pas connu la loi travail et ses manifestations, je nous aurais sûrement soudainement cru en temps de guerre. Marine Le Pen aurait-elle finalement gagné malgré les estimations? Dès la sortie de mon immeuble, je réalise que le balai ne fait pas que défiler. Les camions forment des lignes de plusieurs centaines de mètres jusqu'au-delà du métro Ménilmontant. Il y en avait bien plus que pour Nuit Debout quand nous étions 4000 quotidiennement, bien plus qu'autour de l'Odéon quand il y avait eu une occupation du bâtiment. Clairement, où que mon regard se pose, il y a des camions. Au niveau de la rue Saint-Sauveur, la ruelle étroite et peu profonde est bloquée par une douzaine de camions de CRS venant s'ajouter à la trentaine déjà comptée jusque-là. Partout où mon regard se pose, des RG, la BAC, de la police nationale, des CRS, de la gendarmerie. La présence policière est impressionnante, même pour moi. Je savais que quelques dizaines d'antifascistes et de manifestants devaient peut-être se rejoindre dans le coin, mais quand même. on est à peu près à un camion par manifestant visible. Et les camions ne sont pas vides. Artillerie lourde. J'aurais cru à un attentat en cours avec prise d'otage, mais non. Juste une démonstration de force disproportionnée. Je vous entends d'ici. Quoi qu'il soit arrivé, ils le méritent et cela ne m'arrivera jamais à moi. Ils allaient tout casser dans le 20e. Si c'était si simple. Laissez-moi vous dire ceci. Pour la première fois depuis des mois, je choisis ce soir de partager ce post à mes amis seulement et pas en profil public. Mise à jour, j'ai finalement décidé de le rendre public. Donc, vous me connaissez tous, plus ou moins. Et vous savez que des prises de position impopulaires, j'en ai eu quelques-unes ces dernières semaines. Ce n'est donc pas l'opinion qui m'inquiète, mais je me dois de raconter ça quand même. Pourquoi ? Pour faire 12 likes ? Il est déjà 5 heures et j'adorerais dormir, croyez-moi. Surtout que si je suis une chieuse avérée, je ne suis sans doute pas la personne la plus violente que vous ayez rencontrée. Je ne me suis pas battue depuis le CM2 et de mémoire, je suis partie en pleurant. Alors pourquoi défendrais-je les antifas ? Pourquoi essuierais-je les feux et les jugements si je n'étais pas définitivement convaincue que l'immense danger que l'on court, est du fait que les antifas soient parmi les seuls qui nous en protègent ? Petit rappel. Ça rentrera peut-être à force de le dire encore et encore et encore, mais les antifas ne s'en prennent pas à des échoppes d'épiciers du 20e, à des particuliers et à des vendeurs de falafel. Ils ont plutôt tendance à les protéger comme ils vous protègent et vous soigneront en manif, qu'ils vous connaissent ou pas, que vous les souteniez ou pas. Ils se dressent face au totalitarisme sous toutes ses formes, oui, dont le capitalisme et son omniprésence tentaculaire indissociable du fascisme qu'il engendre. On l'aura, je l'espère, compris grâce à ce second tour. Leurs méthodes sont parfois contestables, certes, mais ils ne sont pas ce que l'on veut que vous pensiez d'eux. Ils, et elles, puisqu'elles sont nombreuses, combattent donc le capitalisme, mais aussi le fascisme pur, idéologique, en affrontant leurs milices d'extrême droite que la police protège, en meeting ou en rassemblement par exemple. Certains penseront que c'est parce qu'on est en démocratie. D'autres savent que c'est aussi parce que plus d'un policier sur deux vote FN. J'inclus les CRS et les gendarmes. Que ça vous plaise ou non, c'est un fait, une réalité vérifiable. Ils ne s'en cachent même plus. Certains se rappelleront de la seule fois où Nuit Debout a été exclue de force une journée entière de la place de la République l'année dernière pour une manifestation d'Alliance, principal syndicat policier très à droite, lourdement encadré, où Gilbert Collard et Marion Maréchal Le Pen étaient venus faire des selfies par centaines. C'est à cette police-là que les antifas et Nuit Debout ont affronté l'année dernière, chaque jour et depuis. C'est cette police-là qui va dans les cités nettoyer au Karcher sous Sarkozy et depuis, tuant Ziyad Ebouna ou violent Théo. C'est cette police-là qui va à Notre-Dame-des-Landes ou à Sivens attaquer de dangereux écologistes poussant la violence des échanges jusqu'à la mort de Rémi Fraisse. C'est cette police-là qu'il nous envoie en manif et qui se réjouit de casser du gaucho. Et c'est cette police-là, officie sous un état d'urgence voté pour 3 mois et en place depuis 1 an et demi, permettant toute intervention, garde à vue, arrestation ou assignation à résidence sans contrôle judiciaire. On estime à 80% les assignations à résidence, fichage ou interpellation en lien avec des activités écologistes ou de gauche. Pour 20% des suspicions de terrorisme islamique en lien avec un attentat. Sous un gouvernement encore dit de gauche, vous comprenez qu'on en rit ? Et vous nous considérez qu'on a vachement d'humour ? Je ne peux pas recenser les centaines de témoignages lus, entendus et les abus innombrables dont j'ai été témoin direct. de simples mots crus à des regards glaçants, de défoulage légal à l'aveugle, à l'ivresse du pouvoir. Je vous jure qu'ils sont en roue libre. Mais je le sais depuis longtemps. Le niveau de gaz atteint lundi était sans précédent. Gaz lancé au hasard dans les passants, dans les cortèges de syndicats. Gaz d'ailleurs interdit par la Convention de Genève en temps de guerre, mais que l'on s'autorise sur la population. Et en même temps, on le fabrique. Alors, autant s'en servir et en faire la démonstration pour l'export. Et on les tire à hauteur de tête, non au pied, pour faire des blessés. Et ce, depuis la loi Travail. Même chose pour les grenades de désencerclement qui ont coûté un œil à plusieurs personnes, habillées en noir ou pas. Et même chose pour les flashballs. D'ailleurs, suite à lundi, Alliance a fait un communiqué disant qu'ils ne pouvaient pas se défendre puisqu'ils ne peuvent pas utiliser les flashballs alors qu'on n'a jamais vu autant de tirs. Les armes que vous voyez à large canon dans toutes les vidéos que je partage sont des flashballs. Pourquoi les avoir en joue s'ils ne s'en servent pas? Les photos de plaies et les balles ramassées se trouvent partout sur le net. Cherchez. Je comprends la difficulté qu'il y a à admettre cette réalité. Je le comprends parce qu'un monde dans lequel on ne peut plus avoir confiance en son gouvernement et en sa police est un monde qui s'écroule. Et que le réaliser, c'est voir toutes ses certitudes s'effondrer et sentir le sol s'effriter sous ses pieds. Je sais. Je le sais parce que je suis passée par là. Moi non plus, je n'y croyais pas avant de le voir de mes yeux. J'avais eu des potes flics, même de la BAC, hein, et je refusais ce « tous pourris ». Il y en a forcément des biens. Oui, pour boire un coup, pour être le parrain de votre enfant même, et passer des dimanches à la campagne, certes, mais pas sur le terrain. Sur le terrain, personne n'est bien. Parce qu'on envoie en première ligne, parce que ceux qu'on envoie en première ligne sont ceux qui y prennent du plaisir, et que les autres finissent par suivre le groupe, comme le font souvent les autres citoyens. Parce que ceux qui ne dérapent pas observent et se taisent sans intervenir. Parce qu'ils vivent et bossent au quotidien avec les autres. Ils font comme beaucoup d'entre vous. Ils vivent comme ils peuvent. Et ils ne veulent pas se démarquer, s'offusquer, être dans la minorité qui s'indigne pour que ça se retourne contre eux. Surtout que la délation chez les flics, ça vous poursuit partout jusqu'à la fin de votre carrière. Je ne parle même pas des gendarmes militaires, chez qui ce serait un suicide assuré. Sauf qu'ils sont payés pour nous protéger, sont armés pour le faire, n'ont plus de garde-fous judiciaires, et que le niveau de violence atteint aujourd'hui un seuil de dangerosité hallucinamment explosif, parfaitement illégal et absolument illégitime. Alors oui, les antifas se dressent face à la police, sans distinction, malgré les débats internes sur les accidents comme celui de lundi ou l'utilisation de trucs inflammables, puisque évidemment il n'y a pas de chef et que ce n'est évidemment pas un consensus collégial, ce sans quoi les dégâts ne seraient pas dans les mêmes proportions. Du tout. Certains antifas pensent encore que tous les flics ne se valent pas, sincèrement. Mais c'est dur d'y croire, encore, après tant de violences subies. D'autres diront que ceux qui ne font pas consentent que tous ont choisi un métier où, depuis plus de 2 ans au moins, ils attaquent une population qui les paye, qu'ils sont censés protéger et qui réclament des droits pour tous, eux et leurs familles inclus. Et que, loin de démissionner par indignation ou de parler du problème, ils s'emploient à nous voir blessés ou mis en danger jour après jour, se conformant aux plus virulents. Vous resteriez CRS, vous, à taper sur des gamins et à gazer des enfants et des personnes âgées? Vous tiendriez combien de temps face à ça sans leur vouloir au moins le mal qu'ils vous font? À le subir ou à voir vos proches, amis, familles, enfants, blessés, gazés, matraqués, traqués, poursuivis, empêchés de travailler ou de se déplacer? Combien de temps avant de vouloir au moins, de temps en temps, en venir aux mains? Une manif? Deux? 10, 100? À moins que vous ne renonciez à manifester pour leur donner raison. C'est ça la solution? On renonce? On arrête? On laisse faire? Où est la sortie? Beaucoup d'actuels Antifa, au début, étaient des militants qui faisaient tampon. Aguerris lors du CPE, à nuit debout ou pendant des manifestations, ils étaient ceux qui s'interposaient entre les flics, CRS, gendarmes, et les manifestants pour les protéger et pour protéger les nouveaux. Ils jouaient aussi le rôle de street medic, médecin de manif, puisqu'on a beaucoup de blessés depuis le début, militants ou pas, dont tout le monde se fout d'ailleurs. Il a bien fallu étouffer ce mouvement social, histoire de ne pas prendre le risque qu'il ne réunisse trop de monde. Certains faisaient aussi partie de la commission Sérénité qui désamorçait, de façon souvent surhumainement diplomatique, les accros en tout genre que ce type de rassemblement peut générer, puisque, contre toute attente, nous avions des centaines de flics en permanence avec nous, mais pas pour nous aider contre les soraliens ou les milices d'extrême droite comme le GUD. Certains autres étaient dans les commissions anti-pub et redécoraient les affiches publicitaires en ouvrant les abribus, sans les casser au début. Mais rien de bien méchant. Puis on s'est fait attaquer, encore, et encore, et encore. Et il y a eu un jour où certains ont refusé de reculer, d'une centaine de mètres de plus, et de baisser la tête à nouveau. Ont refusé de céder à la peur qu'on tentait de nous imposer. Et parce qu'ils ont bien vu que le dialogue était impossible, avec ou sans fleurs, chansons, invitations à nous rejoindre ou toute autre tentative d'évitement de ces affrontements répétés. Ils ont fait face à la démonstration de force permanente comme un gosse frappé par son père se lève un jour pour lui dire « Vas-y, frappe, frappe, frappe encore, vas-y, frappe, jusqu'à ce que je n'ai plus mal, je n'ai plus peur de toi. » Et même si tu me pètes tous les os du corps, je te regarderai dans les yeux. Debout. J'en suis incapable. Je n'ai pas ce courage. Mais je le ressens. Je le lis dans leurs yeux, mec ou meuf, de 17 à 30 ans. Ce même regard, cette même défiance, ce même refus. Ce même aguerrissement. Mêlé à une compréhension très pointue des enjeux politiques et économiques de notre époque, de la problématique de l'œuf et de la poule entre le capitalisme et la montée du fascisme, et une conscience des délais que l'on a pour y mettre fin si l'on veut avoir une chance de sauver nos sols, notre alimentation, nos airs et nos océans. Notre air et nos océans. Et c'est pour ça que ça me fait si mal qu'on les estime si peu. Parce qu'ils sont les seuls à avoir les couilles là. Quoi qu'on en pense. Parce que ni vous ni moi ne le ferons jamais. Parce qu'ils sont les seuls qui se seraient dressés physiquement contre un régime Le Pen qui les aurait sans doute tués avant de les inculper. Et qu'ils ont quand même eu le courage de voter blanc ou de s'abstenir pour le message nécessaire. Et on les décime. Retour à ma soirée. Vous aurez maintenant compris qu'il venait surtout à Ménilmontant pour rappeler à tous que le combat continue, que le danger n'était pas Marine Le Pen seulement, et que tous ceux qui ont professé allègrement sur les réseaux sociaux qu'il fallait voter et qu'on combattrait Macron ensuite, étaient invités à honorer leurs promesses dès le lendemain. Tout à l'heure, Vuller, pour la manifestation du Front Social. Ce n'est pas dans le 20e qu'on casse les enseignes de luxe, qu'on trouve ça légitime ou pas. Je rejoins mon pote, on se fait quelques bises et apprend qu'il y a eu, à l'heure des résultats, une descente dans le bar Saint-Sauveur, situé dans la ruelle qui débordait tout à l'heure de camions, de CRS. Et dont l'entrée est gardée par des dizaines de flics équipés en anti-émeute. Pas mal de gens sont bloqués à l'intérieur, dont des amis d'amis, Mais pas de réaction vive malgré l'attaque directe et l'aberrante démonstration de force faite par la somme des véhicules présents. Surtout, vu la taille de Saint-Sauveur. Je ne le savais pas encore, mais on y case 40 personnes anorexiques en tassant un peu. Allez, 70 avec le trottoir, sincèrement? Il ne manquait que les chars et les hélicoptères. Pour 80 personnes qui manifestent calmement et 50 autres dans un bar. Passons. On se joint au groupe assez hétéroclite qui marche calmement vers Père Lachaise en chantant quelques trucs. Pas un policier pour nous interpeller. On avance. À Père Lachaise, on bifurque sur Gambetta pour remonter vers la place Martin-Nadaud. Le groupe se disloque déjà. Certains prennent des ruelles. On monte, mais certains se demandent ce qu'on fout là à 50 et on rebrousse chemin. Nous aussi, franchement, on se demande. Arrivé là-haut, on doit être un groupe de max 10 personnes quand deux voitures de police foncent sur nous à toute allure et nous tirent deux décharges de gaz lacrymogène à hauteur de tête, à moins de 5 mètres, en pleine rue, sans question ni sommation. On a dû se faire repérer à cause du cône qui servait de tam-tam. Très dangereux, les cônes. Sachant qu'il y a 7 palets par tir, on avait plus d'un nuage par personne. Comme quoi, c'est pas la crise pour tout le monde. Ils repartent aussitôt, laissant un épais nuage qui fera que les automobilistes qui passaient par là ont paniqué. J'ai failli me faire renverser par une bagnole en sortant du nuage. Normal. Ni moi, ni conducteur, ni voyons, quoi que ce soit. Moi, j'ai l'habitude. Mais quelques gamins zélés du quartier ont voulu nous rejoindre et se sont mis à pleurer à 15 mètres de l'épicentre. En général, la première fois, on vomit. La deuxième aussi. On redescend sur le boulevard et on finit par se réfugier dans un café en attendant le dénouement du Saint-Sauveur pour savoir ce qui va arriver aux copains. Il est déjà 22h30, 23h. Dehors, certains autres se regroupent à une cinquantaine, calmement. Mais déjà les gaz pleuvent. Grenades désencerclantes au carrefour Oberkampf pour les rabattre sur Couronne où les désinterpellations à l'aveugle auront lieu. On embarque. Les bus et les camions se remplissent. Dans la panique et les gaz lancés en pleine circulation, un 4x4. Mise à jour, possible véhicule de police banalisé, fauchera une manifestante et fera un délit de fuite. Pas un flic pour l'arrêter malgré les 500 présents. Faut dire que ça en fait une de moins. Dans le café, les touristes américaines hallucinent. Fox News avait raison. On finit par sortir du bar vers 0h30. Toujours autant de camions et les bus d'interpellation massives se mettent en place. Ça sent la rafle. On apprendra plus tard qu'ils ont chopé tout le monde. Les clients du bar à l'intérieur, qui sont encore bloqués pendant presque 4 heures après l'intervention, et tous ceux qui étaient sur le trottoir devant. Forcément, ça commence à monter. Les camions se remplissent enfin. Les groupes se forment à distance pour tenter d'entreprendre quelque chose et s'autorisent à gueuler 2-3 insultes. Une ou deux bouteilles de bière ont dû voler, ok, sur le passage des camions. Sinon, ça gueule, oui, mais rien de plus. Je filme. Dans la minute, de nouveaux camions débarquent, ouvrent des portières et des dizaines de CRS en descendent, gazeuses à la main. Sentir, par pulvérisation, les pires. Deuxième gazage, massif, à bout portant. Les 30 personnes présentes, passants, jeunes, manifestants, tout le monde, courent dans tous les sens. Je me réfugie derrière une voiture, mon téléphone filmant toujours, mais cerné par 30 CRS, je peine à cadrer à bout de bras. Trop con, parce que j'aurais vraiment voulu vous le montrer. Je sais que je me ferais frapper ou casser mon téléphone s'il le voit. Alors je fais pas la maline. Ils sont très en forme, ça se sent. Ils m'évitent parce que, dans ma lâcheté, je ne dis rien avoir à faire avec ça. Et que j'ai une bonne gueule et un look à voter Macron, à mon grand désespoir. Mais à 2 mètres, en face, ils sont à 7-1. Gaz et matraque. Les mecs à terre se font défoncer. Vas-y, chope-le, prends ça, connard! Ils se défoulent et repartent. On se disperse, on tousse. On soigne les yeux au sérum fille, comme toujours. Mais on attend toujours les copains. Et la colère monte encore. mais on est loin de ce qui nous attend après. Les camions sont partis, avec tous les interpellés sous les huées. La ruelle du Saint-Sauveur est enfin accessible. On va voir ceux qui ont pu en sortir, sans finir en garde à vue, pour comprendre. Et puis on se dit qu'avec la soirée de merde qu'on a passée, et celle qu'a dû passer le patron du Saint-Sauveur, on pourrait faire un win-win en buvant un dernier coup avant de rentrer, et, puisqu'il est toujours ouvert. Il est 1h30. On est une vingtaine max, et on rentre dans le Saint-Sauveur. À peine la bière commandée, les camions de CRS passent devant la petite baie vitrée. Je les compte. J'arrêterai à 14. Un copain me fait sortir de là. On se met à l'écart dehors. Les CRS sortent tous des camions et se mettent en ligne en position dans la ruelle. Devant eux, les clients du bar qui fument, les passants qui rentrent chez eux et nous. Forcément, après les gazages, les tabassages, le mec à l'hosto et les arrestations, ça monte côté manifestants, même à 20. Depuis les fenêtres, au-dessus, quelques voisins excédés depuis 20 heures envoient des trucs sur les camions aussi. Si seulement mes yeux avaient pu filmer ce qui a suivi. Je n'ai même pas pensé à sortir mon téléphone, c'était impossible. Dans un cri de guerre, sans prévenir, je vois foncer sur nous ces dizaines de CRS qui se mettent à taper dans le tas la bave aux lèvres. Des hooligans. Je jure que je n'avais jamais vu ça, même en manif, même lundi. On n'avait jamais vu ça. Personne. Ça gueulait partout. Meuf, mec, pas de distinction. Je cherche un autre terme, mais je n'en trouve pas. C'était une ratonnade. Défonce-le, lui aussi ! À 5 ou à 7 sur 1. Quand on en finit, hein, on en chope un autre. Open bar. J'ai du bol encore. Je réussis à m'échapper dans un coin tandis qu'il tabassait à 5 un pauvre SDF bourré qui cuvait son vin à côté du bar. Un défouloir, voilà ce que c'était. Puis, après d'interminables minutes, ça siffle le repli. On se rapproche des camions, enfin. Pardon, il se rapproche des camions, enfin. Et là, tout le monde est en rage. Les gens à terre, partout. Le patron du bar qui vient de s'interposer, mais aussi les filles qui font barrage de leur corps à quatre en ligne, en se tenant les mains pour arrêter la surenchère. C'est vrai qu'on le pensait. Mais un seul a osé le dire. Vous avez les boules qu'elle est perdue, hein, c'est ça l'histoire? Je parlais avec Rémi, un voisin, qui était descendu dans l'intervalle. C'est lui qui a vu les filles se prendre les premiers coups de matraque avant qu'ils ne foncent à nouveau sur nous. Il aura juste le temps de nous cacher dans ce hall d'immeuble avant que ça recommence. Il hallucinait. On hallucinait. On n'a même pas osé allumer la lumière de l'immeuble. On a fait le tour du bâtiment pour ressortir et voir les blessés non embarqués partir en boitant ou se faire soigner avec ce qu'on avait à même le trottoir. Je n'avais jamais vu un tel défoulement aussi décomplexé et une telle ivresse de violence indifférenciée adressée à des civils en tout genre, même lors des manifestations violentes ou des mouvements sociaux. Tout ce qui bougeait était une cible. Tout le monde, sans que personne ne s'interpose. Ça monte, je vous le dis, ça monte et c'est pas fini, ça commence. L'élection de Macron va provoquer des mouvements sociaux, on le sait, tôt ou tard. Et cette violence continuera tant que l'opinion publique ne s'indignera pas. Il faut qu'elle cesse, il faut les stopper, parce que c'est comme ça que démarre une guerre civile. Grâce à de la colère, de la fatigue, des violences policières répétées et de l'impunité. Aucun policier n'a jamais été condamné pour aucune blessure infligée à aucun manifestant, ni aucun mort. Ça monte. Et ceux qui sont arrêtés ressortent de plus en plus en colère. Plus que jamais. Et la course à l'armement se fera du côté de la police grâce à l'opinion publique et on n'en sortira pas. La seule chose qui peut arrêter cela, c'est du monde qui vienne participer aux manifestations. À distance des affrontements, comme je le fais souvent, sans y contribuer, mais juste pour témoigner, voir de ses yeux, comprendre, raconter et sortir du mécanisme méchant manifestant gentil flic qui met tout le monde en danger. Manifestants, citoyens et policiers. Il faut que cela arrive vite, parce que ça dégénère. Et il n'y a qu'un vrai débat public qui puisse le faire. Alors oui, s'il vous plaît, pour moi, pour nous tous, que ceux qui sont à Paris aujourd'hui ou bien en province là où il y a un rassemblement, prennent une heure ou deux pour faire part ensuite et raconter autour d'eux. Pour faire leur part ensuite et raconter autour d'eux. On doit sortir de cet entre-soi stérile et de cercles vicieux. Je ne vois plus d'issue. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas se laisser frapper sans répondre jamais et on ne peut pas renoncer à des combats légitimes pour des droits qu'on nous a pris de force ou ceux que l'on s'apprête à nous prendre bientôt. Il ne s'agit pas de prendre parti, mais bien de se faire une opinion et d'en parler. C'est tout ce que je vous demande. S'il vous plaît, avant les législatives, les gens doivent savoir, tant qu'ils sont encore quelque chose à perdre. Ensuite, j'ai peur qu'il soit trop tard. Merci d'avoir pris le temps de me lire.